Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Justine est la maman d'une petite fille de 2 ans qui est arrivée par surprise après 9 mois de vie de couple et alors qu'elle était sous pilule. Quelques complications au début, mais qui se résorbent assez vite et elle peut mener à bien sa grossesse et rencontrer sa première fille. Après cet échec de contraception, sous les conseils de sa sage-femme, Justine se fait poser un stérilet mais retombe enceinte 1 an après. Elle fait alors enlever son stérilet pour poursuivre cette deuxième grossesse, mais le gynécologue ne voit rien à l'échographie et évoque une potentielle grossesse extra-utérine. Après la prise de sang, le terme fausse couche est posé, mais Justine ressent de fortes douleurs et se dirige aux urgences. Les jours passent sans véritable diagnostic et l'attente est longue. Dans cet épisode, Justine nous raconte ses 2 grossesses surprises sous contraception, l'arrivée de sa fille dans le jeune couple et la découverte de sa grossesse extra-utérine passée sous silence jusqu'à l'hémorragie qui aurait pu lui coûter la vie. Bonne écoute.
Bonjour Justine.
Salut Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Eh ben, ça me fait plaisir d'être là.
Alors, tu es la maman d'une petite fille.
Oui, une petite fille qui a 2 ans.
Qui a 2 ans, et alors on va parler de l'arrivée de la maternité dans ta vie. Toi, est-ce que c'est un sujet, enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais depuis très longtemps?
Je me suis toujours un peu posé la question de si je voulais avoir des enfants ou pas, mais c'était pas du tout une évidence que je voulais justement en avoir. Je me posais la question, mais j'arrivais pas du tout à y répondre. C'était pas pour moi quelque chose qui devait être... En fait, quand on me posait la question, généralement, on me disait « Oh oui, mais tu verras, ça viendra plus tard. » Et je supportais pas cette réponse. Ça m'énervait que ce soit acquis qu'une femme ait envie d'avoir des enfants, forcément. Donc, du coup, je me posais d'autant plus cette question. Et c'est arrivé, au final, un peu par surprise. Donc, ça m'a pas laissé le temps d'avoir le désir de maternité qui arrive d'abord.
T'avais quel âge quand t'es tombée enceinte ?
J'avais 25 ans.
D'accord. Et donc, tu me disais que ça faisait pas si longtemps que t'étais avec ton chéri.
Eh ben non, c'est plutôt ironique. Ça faisait 9 mois qu'on était ensemble quand je suis tombée enceinte. Donc voilà, le beau symbole. Donc ouais, ça faisait tout juste 9 mois. C'était les débuts, quoi. Donc cool. Et puis moi, j'étais sous pilule. Et en fait, j'étais allée voir ma gynécologue, j'étais déjà enceinte mais je le savais pas, en lui disant que je voulais changer de pilule parce que j'avais des symptômes avec ma pilule, maux de tête, etc. Donc je voulais en trouver une autre qui me conviendrait mieux. Et du coup, elle m'a dit bon bah on change de pilule, tu vas pouvoir enchaîner une nouvelle plaquette de cette nouvelle pilule, donc t'auras pas tes règles, c'est normal. Et du coup, j'ai enchaîné et j'ai pas eu de règles. Donc, pour moi, tout était normal. Sauf que, avec cette nouvelle pilule, bizarrement, j'ai eu tout un tas de symptômes. J'avais hyper mal au ventre. Ça me réveillait la nuit. Je me réveillais toutes les nuits de douleur, quoi. J'avais des grosses douleurs au ventre. J'ai eu tous les symptômes que j'ai normalement avant d'avoir mes règles. Donc, mal au sein, etc. Très fatiguée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est mort, cette pilule, elle me convient pas non plus, finalement. Et j'étais un peu dépitée, donc je me suis dit, j'arrête de la prendre en cours de route, je retournerai voir ma gynéco plus tard, mais pour l'instant, je fais une pause, quoi. Et du coup, je l'ai arrêtée au bout de 2 semaines seulement de pilule. Et mes règles ne revenaient pas, mais bon, au début, je me suis dit, bah, c'est normal, c'est un peu le bordel avec tout ce qui s'est passé entre l'enchaînement, puis j'arrêtais en cours de cycle et tout ça. Et puis, il y a un moment, quand même, je me dis, bon, bah, Je me souviens très bien, c'était un soir où je devais aller faire la fête avec mes copines, c'était la fête du mojito. Donc je me suis dit très ironiquement, bon, si je suis enceinte quand même, ce serait bien de le savoir avant de picoler toute la soirée. Et donc j'ai fait un test au boulot pendant ma pause déj, et il était très très positif du coup. Donc il n'y avait pas du tout de doute. Donc gros choc cette grossesse, ouais.
Comment t'as réagi alors en apprenant, en voyant ces deux bâtons, ces deux traits roses sur le bâton?
Bah, j'étais pas mal dans le déni, j'y croyais pas du tout. Je me suis même dit que j'avais du mal faire pipi dessus, tu vois, et que ça avait faussé le résultat. Du coup, je suis retournée à la pharmacie, racheter un test. J'ai bu de l'eau pendant toute mon heure de pause et j'ai refait un test, un deuxième test avant de retourner travailler, qui était toujours aussi positif. Et donc, je suis retournée travailler, voilà, en faisant comme si tout allait bien. Mais j'étais choquée, en fait. Pour moi, c'était vraiment un test pour me conforter que j'attendais juste mes règles. Et finalement pas du tout. Donc, c'était, ouais, je m'y attendais pas du tout, en fait. Vraiment pas.
Et alors, comment tu l'as annoncé au papa? Comment ça s'est passé pour tous les deux?
Et ben, je suis allée, lui, il a un restaurant et on habitait juste en face à l'époque. Donc, je suis rentrée au boulot. Je m'étais dit, bon, je vais quand même aller boire un verre avec mes copines pour me changer les idées. Mais comme on habitait juste en face de son resto, je suis allée le voir, en fait, avant. Il a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand il me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, non, bah, on discutera plus tard. Puis, en fait, il a insisté. Et du coup, on en a discuté. Et je lui ai dit, bon, bah, voilà. J'avais un doute, j'ai fait un test et je suis enceinte, quoi. Et il a été aussi choqué que moi. On est allés se balader tous les deux pour en discuter tranquillement, pour voir ce qu'on allait faire, enfin, pour déjà digérer la nouvelle. Et moi, très vite, j'ai senti que j'avais envie de garder ce bébé, mais c'était plus évident pour moi que pour lui. Enfin voilà, dès le lendemain, quand j'ai fait une prise de sang, en plus j'ai vu que ça faisait déjà un mois et demi et tout ça, et je me suis sentie tout de suite très liée, très connectée à cette grossesse. Lui forcément un peu moins, et donc je lui ai dit que pour moi c'était pas une décision aussi évidente de ce qu'on allait faire, et lui la seule chose c'est qu'il avait peur, quoi. Donc moi j'aurais pas eu envie de garder cette grossesse toute seule, mais comme là, la seule chose qui se passait pour lui, c'était de la peur, ce qui était tout à fait compréhensible. Et ben voilà, on en a beaucoup discuté et puis on a pris la décision finalement de garder cette petite fille. Voilà.
Et là, vous viviez déjà ensemble ?
On vivait déjà ensemble, ouais.
Ok, donc là, les débuts d'une maternité surprise. Comment tu vis ta grossesse ?
Au début, j'ai eu beaucoup besoin de m'en imprégner. Déjà, je crois que je culpabilisais un peu de pas m'en être rendu compte plus tôt. Du coup, je me suis très vite, j'ai acheté plein de bouquins. J'ai eu besoin de, voilà, d'engendrer plein de connaissances. C'était tellement nouveau pour moi et tellement inattendu que j'avais besoin de me faire à cette idée et de m'y mettre à 100%. Et j'étais vraiment obnubilée par ça. Donc voilà, mais j'étais vraiment très très contente. Enfin voilà, une fois qu'on avait pris cette décision, j'étais ravie. Et puis en fait, très vite, au bout de quelques semaines, on était allé à la plage un jour et puis on rentre, on se dit bon, on va s'arrêter faire un resto et donc je vais faire pipi sur le chemin et je perds du sang. Et du sang vraiment rouge, quoi, pas les petites pertes qu'on peut s'attendre à avoir en début de grossesse. Et tout de suite, moi, ça m'a un peu effrayée. Donc je retourne à table avec lui et puis on en discute. Moi, je pleure un petit peu. ça m'a beaucoup stressée. Lui, il essaie de me rassurer. Il regarde même sur internet. Il me dit mais non, mais t'inquiète pas, ça arrive à plein de femmes en début de grossesse. Voilà, et puis quand même sur le chemin du retour, on se dit bon, on va passer aux urgences, au moins pour me rassurer, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. On est allé aux urgences et il était tard le soir, donc on attend un petit moment et au moment de rentrer dans la salle du médecin, je sens que je repère à nouveau du sang, mais vraiment beaucoup. Donc voilà, donc elle m'ausculte, etc. Et puis elle me fait une écho, elle me dit bah le bébé va bien, on entend le cœur, tout va bien. Par contre voilà, il y a un décollement à ce stade-là. Soit ça se résorbe tout seul, soit ça donne une fausse couche.
Comment tu le prends ça ?
Ben, très dur en fait. Moi, j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là parce que je m'étais faite à cette grossesse qui n'était pas prévue. Et soudainement, je me rendais compte qu'elle pouvait partir aussi vite et j'étais pas prête à ça. Donc gros ascenseur émotionnel. Enfin, vraiment, j'ai eu très très peur et j'ai été arrêtée pendant une semaine du coup pour me reposer un petit peu. Et j'ai vraiment pas bougé de la semaine. Je suis restée allongée. Enfin, j'avais vraiment tellement peur que ça s'arrête que j'ai essayé de faire mon maximum pour que tout se passe bien en fait.
Et alors la suite, c'est bien passé ?
Ouais, après ça s'est bien passé. Ça a pris un petit peu de temps quand même, donc difficile de pas y penser parce que bah, quand tous les jours tu te rends compte que tu perds encore un peu de sang, c'est difficile de penser à autre chose et de pas stresser. Mais voilà, ça a été un petit peu mieux. J'ai repris le boulot, j'ai eu à nouveau des pertes de sang, j'ai été à nouveau en arrêt. Et là, j'étais en arrêt beaucoup plus longtemps et j'ai très peu travaillé en fait pendant cette grossesse du coup, et je crois que moi j'avais besoin de voilà, c'était ma priorité, je voulais pas prendre de risques, et une fois que j'avais vécu ça, j'avais besoin de bah ouais de me centrer sur cette grossesse, et c'était quelques mois et c'était ce qui avait de plus important pour moi quoi.
Et les médecins ont pu te rassurer à un moment de ta grossesse pour te dire que ok là ouais. C'est bon.
Au bout de quelques mois, vers je sais plus trop, mais vers 4-5 mois, il y avait plus rien. Voilà, donc ça a été un petit moment de stress au début, et puis après tout s'est très bien passé, il y a plus aucun souci.
Et alors la rencontre avec ta fille, comment ça s'est passé ?
Ben, c'était très chouette. Pour le coup, je fais pas partie de celles qui adorent forcément être enceinte, mais l'accouchement je le remettrai avec plaisir. Ouais. Je trouve ça très cool. Ouais, j'ai perdu les os en allant faire pipi le matin chez moi, donc truc idéal. Après, il s'est rien passé, pas de contraction, donc ça a été un petit peu long, mais moi j'étais contente, je savais que j'allais la rencontrer, j'avais vraiment hâte. Du coup, j'ai quand même été déclenchée. Voilà, donc contraction forcément assez douloureuse et assez intense, mais ça s'est très bien passé, ça a été très vite, elle était là en 20 minutes, enfin voilà, c'était très chouette.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie à l'aise tout de suite dans ton rôle de maman ?
Ouais, ça m'a paru assez évident, j'étais à l'aise avec elle en tout cas, enfin j'avais pas l'impression de mal faire ou quoi que ce soit, je me sentais bien dans ce rôle. Par contre, ça a été un peu plus difficile sur le fait de me sentir d'avoir perdu cette liberté d'un coup, le fait d'être tout le temps à la maison avec un petit bébé. Au début, j'ai essayé d'allaiter, mais ça a duré que 3 semaines, c'était pas trop mon truc, c'était trop d'investissement pour moi. Non, j'étais vraiment bien. J'ai juste eu ce moment où, oui, je me rendais compte de temps en temps que, bah tiens, j'aurais bien été faire une course, et puis qu'en fait, bah non, là, fallait que je prépare mon bébé, et que ça allait prendre une demi-heure, puis que c'était l'heure de manger, et que voilà, c'était pas si simple. Ça a mis un peu de temps pour que je m'habitue à cette nouvelle vie, mais en tout cas, pas à elle, quoi. Vraiment aux modifications de ma vie à moi perso.
Et du coup, ton couple était bon, un peu plus construit, mais quand même assez jeune, au moment en tout cas où t'as découvert ta grossesse. Est-ce que ça a impacté un petit peu l'arrivée du bébé, ou ça vous a consolidé Comment ça s'est passé au niveau du couple ?
Non, je crois que ça nous a plutôt consolidé. Alors forcément, il y a eu des moments compliqués, parce que dans tous les cas, je crois que qu'on soit un couple de 9 mois ou de 10 ans, on se connaît pas en tant que parents, donc on peut pas savoir à quoi s'attendre. Donc voilà, il a fallu assez vite au final rebattre les cartes, et comme on n'avait pas des habitudes qui duraient depuis des années, finalement c'était pas plus compliqué que ça. C'était des petits ajustements, il y a eu des prises de tête avec la fatigue comme beaucoup, mais voilà, c'était chouette.
Et alors, vous avez voulu un deuxième bébé assez rapidement par la suite ?
Non, pas tout de suite. Moi, j'avais très peur après l'accouchement de retomber enceinte, puisque la première fois c'était sous pilule. J'avais peur de revivre la même chose, une grossesse sans m'en rendre compte. Voilà, donc je me suis fait poser un stérilet dès que j'ai eu mon retour de couche, donc quand elle avait 3 mois à peu près. Et du coup, les premiers mois avec le stérilet, j'étais pas rassurée quoi. J'avais l'impression que ça allait se repasser à nouveau, et j'ai fait pas mal de tests de grossesse pour me rassurer. encore une fois. Voilà, parce que j'avais peur que de pas détecter une grossesse, quoi.
Qu'est-ce qui t'avait conseillé de mettre un stérilet? C'est ta gynéco qui t'avait dit?
Ma sage-femme, ouais. Ma sage-femme, quand j'ai fait ma rééducation du périnée, on en avait beaucoup discuté. Elle m'avait conseillé le stérilet en me disant qu'en plus, potentiellement, j'aurais plus de règles. Moi, j'ai tendance à avoir des règles douloureuses, donc je trouvais que c'était une bonne option. Voilà, donc j'avais pas envie de repartir sur la pilule et je me suis dit que j'allais tester le stérilet. Et finalement, j'ai fini par me dire bon allez c'est bon maintenant j'ai un stérilet, enfin tout va bien quoi, je vais pas retomber enceinte, ça va pas se repasser une deuxième fois de la même façon, c'est improbable. Et puis ma fille a eu un an et puis dans le mois qui a suivi, mon amoureux me dit mais tes seins sont complètement énormes en ce moment, enfin c'est n'importe quoi. Puis je vais boire un coup avec une copine qui me dit la même chose, qui me dit mais non mais tes seins sont énormes Justine, et je me dis mais non mais n'importe quoi, c'est parce que j'ai un gros pull, bon voilà, enfin dans le déni complètement. Et puis quand même au bout d'un moment je vais prendre une douche et puis je me regarde, je me dis je crois qu'ils ont raison quand même, il y a un truc qui se passe quoi. Et donc je me dis bon allez cette fois je vais aller acheter un test, mais je vais en prendre deux d'un coup, je vais pas faire la même chose que la première fois. Et pareil, je retourne au boulot et puis je fais mes tests au boulot à chaque fois et il est positif. Pareil, dans la seconde il est très positif quoi.
Tu te dis quoi à ce moment-là?
Je me dis que c'est improbable quoi. Enfin, c'est pas la même chose que la première fois, parce que la première fois c'est le choc complet. Là, on a déjà une petite fille et c'est pas pareil de se dire que je retombe enceinte malgré tout, même si c'était pas dans les plans à ce moment-là. Mais je me dis c'est fou quoi. Enfin, la première fois sous pilule, surtout quand tu racontes ça que t'es tombée enceinte sous pilule, les gens se disent toujours que t'as dû oublier un comprimé, que t'as dû. Et là, je me dis en fait, d'une certaine façon, ça me donne raison. Je savais que j'avais pas oublié de pilule déjà la première fois. Là, c'est sous stérilet, j'y suis pour rien, quoi. Enfin voilà, il y a un truc de fertilité, de compatibilité entre nous qui fait que je tombe enceinte et voilà. Donc un peu choquée, mais en même temps assez excitée et plutôt contente quand même, même si c'était pas dans nos plans tout de suite.
Et là, alors l'annonce au papa.
Alors l'annonce pas beaucoup mieux parce que on en avait parlé quelques jours avant et puis il m'avait dit si, il faut que tu fasses un test et tout ça, et du coup je lui avais dit oui, j'en ferai un, et dans ma tête je lui avais dit que j'allais en faire un, et du coup je l'ai juste appelé en lui disant t'avais raison, je suis enceinte, et il était pas du tout prêt à cette annonce forcément, il s'attendait pas à ça à ce moment-là, donc pareil il était un peu choqué, et puis il m'a rejoint pour déjeuner et en fait, très vite, on s'est dit que c'était une bonne nouvelle, quoi, parce qu'on avait déjà une petite fille et qu'on voulait d'autres enfants dans l'idée par la suite. Pas aussitôt, mais finalement, si c'était là, c'était chouette, quoi.
Donc là, ta fille avait un an et demi.
Elle avait un an. Ouais, elle venait d'avoir un an, ouais.
Ouais.
Ouais. Donc c'était pas moi. Quelques jours avant de faire le test, je disais que là, c'était hors de question que je retombe enceinte et que je voulais pas du tout d'un deuxième enfant maintenant, je me sentais pas prête, et puis j'ai fait le test et puis je me suis dit d'accord, allons-y quoi. Enfin voilà, quand je tombe enceinte, en fait, je me rends bien compte que très vite c'est une évidence pour moi que c'est en moi quoi, voilà.
Et là, t'étais enceinte de combien de temps
quand tu l'as découvert ? J'étais enceinte de pas longtemps, de 2-3 semaines.
D'accord.
Okay. Ouais.
Et alors comment s'est passée cette deuxième grossesse ?
Alors cette deuxième grossesse, du coup, j'ai appelé très vite, le jour même où je l'ai apprise, j'ai appelé ma sage-femme du coup, parce que je savais que j'avais un stérilet et que dans l'idée, on gardait pas un stérilet en étant enceinte. Donc voilà, je l'ai appelée pour lui dire déjà que j'étais tombée enceinte, et puis elle nous a pris en rendez-vous dès le lendemain pour nous dire vous avez deux options, soit il faut enlever le stérilet, soit on le laisse, mais ça peut créer des risques pour la suite de la grossesse en fait. Et si on l'enlève tout de suite, ça peut provoquer une fausse couche.
Et sur le fait que tu tombes enceinte avec un stérilet,
elle trouvait ça un peu improbable, mais en même temps, elle m'a dit oui, ça arrive quoi. Après, c'est rare, surtout la première année du stérilet, c'est hyper rare. Mais elle avait pas d'explication. Elle était assez choquée aussi, mais elle avait pas d'explication en plus à me donner quoi. Donc on en a discuté avec mon amoureux. On s'est dit que qu'on allait du coup pas forcément enlever le stérilet, on n'allait pas prendre le risque de le laisser pour qu'il y ait autre chose par la suite de la grossesse. Comme nous, l'idée c'était de du coup de garder ce bébé, on s'est dit que valait mieux une fausse couche directement si ça devait être comme ça que des complications par la suite. Du coup, elle nous a redirigé vers un gynécologue. Donc on y allait pareil dès le lendemain pour enlever le stérilet. Et du coup, il a enlevé ce stérilet et puis il m'a fait une écho en me disant bah normalement, on devrait voir quelque chose quand même dans l'utérus à ce stade-là. Donc on y va, voilà, on fait l'écho et puis en fait, il me dit bah je vois rien dans l'utérus. Voilà, il me dit bon, normalement à ce stade-là, on voit quelque chose mais c'est voilà, ça se peut aussi que ce soit pas qu'on voit rien pour l'instant. Par contre, l'endomètre est très fin, donc normalement, quand il y a une grossesse dans l'utérus, l'endomètre s'épaissit, donc on devrait voir quelque chose, quoi. Et donc il nous explique que potentiellement, ça peut aussi être une grossesse extra-utérine et que, il faut tant qu'on n'a pas écarté cette piste, il faut faire attention parce que ça peut être dangereux, quoi.
Alors, il t'explique à ce moment-là ce que c'est une grossesse extra-utérine. T'en avais déjà entendu parler toi-même?
Moi, je savais qu'une grossesse extra-utérine, c'était une grossesse qui allait pas être viable et que c'était du coup une grossesse qui était pas dans l'utérus, mais j'en savais pas plus sur le sujet. Pas du tout. Voilà. Et donc, moi, je l'écoute. Lui, il me dit juste, pour l'instant, on va faire des prises de sang pour contrôler le taux d'hormones. On va voir si c'est une grossesse, vous êtes en train de faire une fausse couche ou voilà. En tout cas, c'était déjà plus vraiment une grossesse évolutive à ce moment-là. Donc directement, on est allé faire une prise de sang. Et effectivement, le taux d'hormones avait déjà baissé. On savait que j'étais, enfin, on n'aurait pas de bébé. Avec cette grossesse. On rappelle le gynéco, il nous dit oui, bon, bah, du coup, vous êtes en train de faire une fausse couche, faut contrôler toutes les 48 heures avec des prises de sang et puis attendre que le taux soit à nouveau à zéro, quoi. Voilà.
Comment tu le vis, toi, à ce moment-là?
Le moment où on reçoit les résultats, je suis triste quand même parce que du coup, c'est un peu l'ascenseur émotionnel d'une grossesse, encore une fois, qui n'est pas prévue et puis on était quand même très contents, on l'avait même dit assez vite parce qu'on trouvait ça tellement improbable que ça se repasse une deuxième fois qu'on en avait parlé pour dire aux gens bah voilà, je suis retombée enceinte, quoi, c'est fou. Donc oui, triste sur le moment et puis assez vite je me dis quand même que c'était pas dans nos plans, donc c'est pas très grave, c'était pas prévu. Voilà, je suis triste mais je relativise. Je me dis bon bah c'est tout, c'est que ça devait être comme ça, quoi.
Et alors, comment ça se passe ensuite? Qu'est-ce que vous faites comme démarche?
Ça c'était la prise de sang, je l'ai faite en fin de semaine, un jeudi ou un vendredi, donc j'avais celle d'après le lundi normalement. Sauf que le dimanche après-midi, je suis chez moi, je mets ma fille à la sieste, mon amoureux est parti travailler, parce qu'il a un restaurant, donc il travaille beaucoup la journée et le soir. Et puis là, je suis prise de douleur hyper forte dans le ventre. Donc je me dis que peut-être que je suis en train de faire vraiment ma fausse couche, quoi, de que je vais perdre quelque chose, que je vais perdre du sang. Et donc j'attends un peu de voir ce qui se passe. Et puis il se passe rien, mais les douleurs sont de plus en plus fortes. Donc j'appelle Tim pour lui dire rentre parce que là je suis vraiment pas bien, je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas moi là, si Rosalie elle se réveille, je peux pas aller m'occuper d'elle, quoi, je suis vraiment pas bien. Donc il rentre et puis on fait venir quelqu'un pour garder notre fille et puis on va aux urgences. Donc les urgences un dimanche après-midi, beaucoup de monde, donc on attend pendant plusieurs heures. Et puis on finit par être reçu par une interne qui nous pose quelques questions et puis qui m'ausculte, qui me fait une échographie endovaginale et qui me dit moi je parie sur une grossesse extra-utérine à gauche, sur la trompe gauche. Je dis ok, super, on lance les paris. Je suis un peu démunie par cette façon qu'elle a de me dire ça comme ça.
Ouais, aucun tact.
Je manque un peu de tact, ouais, voilà. Déjà dans ses questions avant, elle m'écoute pas plus que ça. Elle me repose un peu les mêmes questions, voilà. Et donc ça me crispe un peu, mais bon, c'est tout. Et puis on nous refait passer en salle d'attente pour avoir les résultats aussi de la prise de sang, tout ça. Donc on attend encore un long moment. Et puis, on nous dit, bon, bah, le taux a encore un peu baissé, donc voilà, rendez-vous mardi, quoi. J'ai dit, ok, mais enfin, les douleurs, c'est quoi? Et en fait, on me donne pas d'infos, on me laisse juste repartir chez moi avec une ordonnance de spasfon et de doliprane, quoi. Donc, je rentre chez moi. Voilà, parce que je sais pas quoi faire d'autre. Et donc, les douleurs continuent un peu. Les jours qui suivent, le lundi, le mardi. Le mardi, je retourne faire une prise de sang à l'hôpital. Quand j'arrive à 9h, on prend, on m'ausculte rapidement. On me dit, bon, bah, allez faire la prise de sang. Comme ça, juste après, on aura le temps de vous faire une écho pendant qu'on attend les résultats. Je vais faire la prise de sang. J'attends un long moment. Je repasse en salle d'attente pour attendre à nouveau de faire l'écho, et puis finalement on me dit non, finalement il n'y a pas besoin de faire d'écho, votre taux a encore baissé, donc on se revoit vendredi. Donc je reste de 9h à 13h aux urgences pour au final juste qu'on me dise bon bah voilà, votre taux a baissé, c'est tout quoi.
Et au niveau des douleurs, il n'y avait pas de... Enfin, t'avais des grosses douleurs ou c'était supportable? C'était...
Alors, les jours d'après, là, c'était supportable. J'avais mal en permanence, mais ça me tirait, mais c'était supportable. D'accord. Donc, je me dis, bon, ben bah, voilà, ça va passer, quoi.
Tu perdais pas de sang?
Je perdais pas de sang du tout, non. Non, non. Il se passait rien de plus. Voilà. Donc, je repars chez moi et puis je me dis, prochaine prise de sang vendredi. Donc j'attends, mais ça devient déjà assez long là à ce moment-là, de tout le temps être dans l'attente, de pas savoir, de pas savoir si à un moment je vais perdre quelque chose, qui va se passer. Enfin voilà, je trouve ça vraiment long.
Parce que là, ils te parlent. Enfin, t'as deux, trois médecins qui te parlent de la grossesse extra-utérine, mais ils t'expliquent.
Non.
Personne t'explique rien sur ce qui va se passer, sur ce que c'est, sur les risques, sur...
Non, le premier gynéco me dit juste que si c'est une grossesse extra-utérine, qu'on la prend à temps, on peut faire un traitement médicamenteux pour l'expulser. Voilà, et que sinon, si c'est fait trop tard, c'est plutôt une opération, mais c'est tout. Et puis en fait, on ne pose jamais un véritable diagnostic, quoi. On l'évoque à chaque fois, mais... sans me dire ok bah là c'est ça et il faut faire quelque chose. Donc à chaque fois on fait comme si c'était une fausse couche classique et on attend juste que le taux de bêta HCG revienne à zéro quoi. Donc voilà, et puis moi j'y connais pas grand chose, je regarde un peu sur internet mais je trouve pas d'infos très claires non plus. Les seules choses que je vois c'est que c'est hyper rare les grossesses extra-utérines, mais bon, quand ça te concerne du coup que ce soit rare, c'est pas ce qui t'intéresse le plus. Voilà, je trouve pas les infos. Et puis du coup, je suis un peu, je fais confiance aux médecins, donc je les laisse faire quoi.
Là, il s'est écoulé combien de temps depuis la première écho et
ça fait presque une semaine là.
D'accord.
Voilà. Du coup, il s'est encore rien passé. Voilà, j'ai eu des douleurs. J'attends, je suis dans l'attente et puis c'est tout. Et du coup, je dois normalement refaire une prise de sang le vendredi. Sauf que le jeudi soir, pareil, je couche ma fille. Et puis juste après, je suis prise de douleurs hyper fortes. Donc je les reconnais, c'est les mêmes que j'ai eues le dimanche d'avant. Donc tout de suite, j'appelle à nouveau mon amoureux pour lui dire « Bon, là, faut que tu rentres, quoi. » Enfin, parce qu'en plus, moi, là, je commence à plus avoir de patience. Je suis à bout, j'en ai marre des douleurs, j'en ai marre... que ça traîne comme ça, même si au début la fausse couche elle me rend triste sans que ce soit difficile, là je commence à trouver ça dur quoi, que ça soit en moi comme ça pendant une semaine et quelques et qu'il se passe rien, je trouve ça long, j'ai envie que ça s'arrête quoi. Donc je l'appelle, il se dépêche de rentrer et puis pareil on essaie de trouver quelqu'un pour garder notre fille, donc ma sœur vient assez rapidement. On a la chance d'avoir beaucoup de monde aussi dans notre entourage à côté. Et du coup, c'est une chance dans ces cas-là. Donc voilà, on repart aux urgences. Et là, c'est... Enfin, moi, je suis pliée en deux. Je peux pas marcher correctement. Je suis obligée de rester pliée en deux. Je suis recroquevillée sur moi. Je supporte pas du tout le moindre contact. La douleur, elle est vraiment violente. J'ai des nausées, j'ai la tête qui tourne, ça me coupe les jambes. Enfin, c'est vraiment, c'est la pire douleur que j'ai vécue de ma vie. Et du coup, on a la chance d'habiter à 3 minutes en voiture de l'hôpital. Donc, on y arrive très vite. Mais même ce trajet de 3 minutes avec les vibrations, ça me fait super mal. Enfin, vraiment, je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. Et donc on arrive et puis voilà, on a la chance d'être pris en charge assez vite parce que c'est le milieu de la nuit et qu'il y a personne. Donc on réexplique un peu ce qui s'est déjà passé, même si moi j'ai un peu de mal à avoir les mots parce que je suis trop dans la douleur et que du coup heureusement que je suis pas toute seule parce que sinon j'arriverais pas à m'expliquer clairement. Et du coup il y a une des internes qui m'ausculte. Et là, juste le contact de sa main sur mon ventre, ça ravive encore plus les douleurs. Et Tim me dit, mais est-ce que ça va? Je dis, bah, je pense que je vais vomir, quoi. Et ils ont juste le temps de me tendre un petit sac et je vomis dedans de douleur, quoi, tellement ça me fait mal. Donc là, pour la première fois, il y a la chef gynéco qui finit par arriver. Et je crois qu'il fallait vomir pour ça. Voilà. Il fallait que ce soit plus important, quoi. Donc voilà, elle me fait une écho et puis on me reparle de grossesse extra-utérine, potentiellement dans la trompe gauche, mais c'est toujours pas très clair, mais bon, ça a l'air d'être ça, a priori. Et puis, bah, je pense qu'ils ont du monde aussi à ce moment-là, ils sont assez occupés, donc on se retrouve qu'à deux avec Tim dans la salle, et puis on attend pendant un long moment, lui il essaie un peu de me changer les idées et tout, mais moi j'entends un mot sur deux de ce qu'il me dit, j'ai mal, et puis la douleur, elle m'épuise, j'ai chaud, j'ai froid, enfin, j'ai des vertiges, c'est compliqué. Et donc, il finit par essayer d'appeler quelqu'un pour dire, bah, on peut pas faire quelque chose, enfin, la mettre quelque part. Et du coup, je me retrouve dans une salle de pré-travail, à côté d'une femme qui est en train d'accoucher.
Non.
Voilà, la même salle où j'étais, bah du coup quasiment un an avant, exactement sur la même place où j'étais un an avant pour accoucher de ma fille. Donc je trouve que c'est, bah il y a un problème à ce niveau-là déjà dans les hôpitaux, quoi. C'est mal géré. Moi je me dis, enfin, en fait ça va parce que je le vis bien parce que c'est pas tous mes espoirs étaient pas dans cette grossesse, mais j'imagine que tu vis ça et que t'as déjà fait des fausses couches, ou que t'as pas encore d'enfant, et que c'est la première fois que t'essayes d'en avoir, et que t'es là, à côté d'une femme qui gère ses contractions, je trouve que c'est pas approprié du tout. Mm-hmm. Donc voilà, on se retrouve là, il me donne un peu d'antidouleur, ça m'apaise un petit peu, et puis de toute façon, je suis tellement fatiguée que je somne à la moitié parce que j'en peux plus, quoi. Et du coup, la gynécologue finit par revenir nous voir, en nous expliquant, cette fois, que bon, bah là, il va falloir regarder ce qui se passe, dans mon corps, et du coup je vais me faire opérer le lendemain matin sous anesthésie générale, voilà, pour voir ce qu'il en est, s'il y a toujours une grossesse quelque part ou pas, mais en tout cas il faut aller vérifier. Et donc elle me dit que comme c'est sous anesthésie générale et que là je suis pas à jeun, mais il faut attendre 8h du matin, quoi. Voilà. Ouais, là il est, voilà, je sais pas, il doit être 11h, minuit, je sais pas trop, mais. Et en même temps, quand elle me dit ça, moi je suis plutôt soulagée parce que pour une fois, là, je me dis, bon, bah, je sais que demain c'est fini, en fait. Ouais. Que quoi qu'il arrive, c'est bon, je vais être prise en charge vraiment et ce sera de l'histoire ancienne demain, quoi. Donc à ce moment-là, je prends sur moi.
Parce que pendant tout ce moment, en fait, ils peuvent pas détecter où se loge le. C'est un fœtus, du coup.
Ouais, un embryon, un fœtus, je sais pas encore à ce stade comment on l'appelle, mais c'est une grossesse, ouais, c'est juste qu'elle est pas au bon endroit.
Et ça peut se loger où?
Bah là, du coup, en l'occurrence, c'est dans la trompe. Après, je pense que globalement, souvent, c'est dans la trompe de Fallope. Après, ça peut être ailleurs, je sais pas tellement, en fait, mais moi, c'était dans la trompe, en tout cas. Voilà, donc non, en fait, ils ont l'air de voir un peu quelque chose, mais ils sont pas sûrs à chaque fois à l'écho, donc ils ont besoin d'aller vérifier, quoi. Voilà, du coup, on est dans cette salle de pré-travail pendant un long moment, et puis ils finissent par nous faire monter quand même dans une chambre pour passer la nuit. Du coup, j'essaie de me reposer un peu, mais en fait, j'ai une douleur qui commence à apparaître de plus en plus, même si les douleurs dans le bas-ventre, elles redeviennent à peu près gérables. Je passe mon temps avec la main sur ma côte, en fait, je suis obligée de me tenir pour respirer, parce que j'ai un poing qui me fait de plus en plus mal, et je peux plus prendre de grandes inspirations, en fait. Je peux plus respirer normalement, parce que ça me fait trop mal. Je suis obligée de, je peux pas rester allongée non plus, donc je suis obligée de mettre le lit dans une certaine position et de voilà et j'ai ma main tout le temps sur ma côte pour essayer d'avoir le moins mal possible et je prends des toutes petites inspirations pour pas avoir mal quoi. Donc
hyper angoissant.
Ouais, hyper angoissant, hyper gênant, c'est hyper douloureux. Si je respire un peu trop fort, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui éclate à l'intérieur. Et ça me fait hyper mal. Si je bouge dans une position qui est pas la bonne, ça me fait la même chose. Donc ça devient un peu ingérable. Et puis voilà, c'est hyper douloureux. Mais j'essaie de prendre sur moi parce que je me dis de toute façon là, il doit être, je sais pas à ce moment-là, 2h du matin. J'ai quelques heures à tenir. Et puis c'est bon. Donc ça sert à rien de. Enfin, voilà, je prends sur moi comme je peux quoi.
Est-ce que tu te dis que tu veux pas déranger, que tu veux pas trop t'imposer ?
Ouais, complètement. J'ai pas envie de les embêter. Les infirmières sont très gentilles, voilà, mais elles m'ont dit de pas hésiter. Mais je me dis que ça sert à rien et qu'effectivement je vais les déranger pour rien, quoi. Et puis j'ai tendance à me dire que à minimiser la douleur que je ressens. Donc je me dis bon bah peut-être que j'en fais des caisses en fait, alors que pas du tout. Mais sur le moment, voilà, j'essaie de minimiser pour me dire bon bah allez, on va tenir jusqu'à 8 heures, c'est mon objectif et puis c'est tout quoi. Et bon finalement, Tim voit bien que je suis vraiment mal et du coup il appelle quand même les infirmières lui, ce que moi j'aurais pas fait tout de suite. Et donc on leur explique un peu que j'ai cette douleur, voilà. Et du coup, il y a une des internes qui revient avec une sonde pour me refaire une écho au niveau de la côte. Et donc là, au moment où elle la pose tout juste sur moi, avec ma main, je l'écarte directement. Enfin, je suis un peu brusque, quoi. Et je me mets à hurler de douleur. Juste le contact, là, c'est insupportable. Et puis du coup je me relève brusquement et du coup j'ai cette douleur qui se réveille encore plus. Je suis plus dans une position où je peux gérer la douleur, donc là j'éclate un peu, je me mets à pleurer vraiment parce que j'en peux plus, jusqu'à ce que voilà, ça finisse par je retrouve une position à peu près correcte et j'arrive à regérer à peu près. Mais sur le moment j'en peux plus, j'ai mal, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, je comprends pas pourquoi j'ai mal dans la côte en plus, enfin voilà, je trouve ça bizarre quoi. Et du coup, au vu de tout ça, la gynéco revient dans la chambre et puis elle me dit bon bah du coup on va quand même vous opérer maintenant, voilà, parce que là ça commence à faire beaucoup quoi. Donc là je laisse mon amoureux tout seul, tout blanc, qui me laisse partir, qui subit depuis plusieurs heures, lui, d'être là à côté, de rien pouvoir faire, de pas savoir. Donc j'essaie d'être le plus rassurante possible en partant. Et puis voilà, on descend au bloc et on me demande de me tenir bien bien droite, allongée sur le matelas. Enfin, la table d'opération, mais rien que ça, ça me demande beaucoup d'efforts parce que ça me fait hyper mal. On me demande de prendre des grandes inspirations pour l'anesthésie, quoi, pour m'endormir, mais c'est pareil, c'est trop difficile, du coup ça prend un peu de temps. Et puis je finis par m'endormir avec l'anesthésie, et voilà. Et je me réveille quelques heures plus tard.
Et là, alors, on te dit enfin...
Là, on me dit pas grand-chose. Je suis en salle de réveil. On me dit juste, bon, bah voilà, ça s'est bien passé. La gynéco viendra vous voir en chambre après. Une heure après, je crois que je remonte. Et puis, elle passe dans la foulée pour m'expliquer. Mais en fait, je comprends pas tout de suite tout bien. Parce que elle m'explique que, bon, bah voilà, effectivement, il y avait une grossesse extra-utérine dans la trompe gauche. Que c'était trop amoché et que du coup il a fallu enlever la trompe. Puis elle me dit qu'ils ont dû nettoyer mon ventre, tout ça, mais elle emploie pas vraiment les termes hémorragie. Mais je le comprends plus tard, en fait, que ce qui s'est passé, c'est que ça a rompu et que du coup, bah, effectivement, nettoyer mon ventre, c'est parce que j'avais 1 ml de sang dans mon ventre. Et que ça avait éclaté et c'était ça, toute cette douleur. Donc, je l'ai pas compris tout de suite, hein, parce que déjà, j'étais complètement shootée de l'anesthésie, j'avais pas l'esprit pour répondre, pour poser les questions à ce moment-là, et puis c'était un peu vague dans la façon dont ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Donc j'ai juste compris que voilà, j'avais plus cette trompe ni cette grossesse en moi, que c'était terminé et que ça allait, quoi.
Mais est-ce qu'il y avait un rapport possible avec le stérilet ou absolument aucun?
Ben, moi, j'ai demandé à plusieurs personnes. Certains m'ont dit que potentiellement oui, d'autres m'ont dit que non. Donc, en fait, j'en sais rien, mais j'imagine quand même que par défaut, le stérilet, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de grossesse dans l'utérus. Donc, s'il y a une grossesse qui veut s'implanter, elle trouve le moyen de s'implanter ailleurs. Voilà. Donc, j'aurais jamais la certitude que c'est à cause du stérilet, mais ça me paraît être quand même une cause. On sait qu'il y en a des grossesses sous stérilées et ça arrive quand même assez fréquemment. Donc, pour moi, il y a un lien, quoi.
Et alors, à quel moment tu comprends qu'il y a eu hémorragie? Tu dis que t'as compris un peu plus tard?
Bah, quand ils m'ont donné le compte-rendu, en fait, et que j'ai essayé de déchiffrer un peu tout ce qui était noté dedans, et puis que j'en ai parlé un peu autour de moi et que... Voilà, j'ai demandé un arrêt à mon médecin, etc. Et du coup, oui, plusieurs fois, on m'a dit « Ah oui, bah quand même, du coup, vous avez perdu 1 ml de sang, tout ça. » Enfin voilà, donc c'est à ce moment-là que je comprends que c'était une hémorragie interne que j'étais en train de faire, quoi. Et que c'est pas rien, et puis ça aurait pu être quand même évité. Donc c'est un peu dur à encaisser à ce moment-là, quoi.
Oui, tu penses qu'ils auraient dû faire le nécessaire plus tôt?
Bah, j'ai l'impression qu'en tout cas, dès la première fois que j'ai fait une écho, on m'en a parlé de cette grossesse extra-utérine, et qu'en tout cas, ça aurait pu être géré moins dans l'urgence. Ça m'aurait sûrement évité toute cette douleur que j'ai ressentie. Ça m'aurait évité d'attendre pendant une semaine sans savoir ce qui allait se passer. Enfin voilà, c'était compliqué, quoi. Et puis surtout, en fait, le lendemain d'opération, je suis sortie, on m'a dit « Bon, bah voilà, tout va bien, l'opération s'est très bien passée, vous pouvez retourner travailler lundi. » Et c'est hyper culpabilisant, en fait, ces discours de dire « Bah voilà, sur le point physique, l'opération s'est bien passée, bah c'est bon, tout va bien. » Or, en fait, moi, j'étais le lundi, j'étais incapable de tenir debout plus de 5 minutes entre l'anesthésie, entre la douleur et tout ça. Je tenais pas debout, quoi. Donc en plus tu te dis bah est-ce que c'est moi qui suis pas normale? C'est hyper culpabilisant de se dire que ouais, on dit que tout va bien, c'est bon, tu peux reprendre ta vie, quoi. Et puis à aucun moment de tout ce parcours y a quelqu'un du corps médical qui m'a demandé juste comment je le vivais ou comment ça allait ou si j'avais besoin pour la suite je sais pas d'une aide psychologique, parce que c'est pas rien, quoi, c'est une grosse opération, on m'a enlevé une trompe, c'est pas anodin non plus. Et ça, tu sens que c'est pas... Ils sont pas formés là-dessus, quoi. C'est pas leur truc. Enfin, pour eux, d'un point de vue physique, l'opération s'était bien passée, bah tout allait bien. Et moi, sur le moment, oui, j'ai eu l'impression que ça allait. Surtout parce que j'ai eu envie de rassurer les gens. J'étais déjà très soulagée de que ce soit terminé sur le moment. Et oui, le jour où je me suis fait opérer, mon seul but, c'était d'envoyer un ou deux messages pour dire bah, « tout va bien », quoi. Parce que t'as pas envie de faire peur aux gens qui sont au courant et qui s'inquiètent pour toi. Donc, qui ont eu peur aussi. C'est même pire comme position presque d'être là dans l'attente de quelqu'un de proche qui s'est fait opérer comme ça en urgence. Donc il y a eu ça. Et puis, c'est un peu après, quand je suis rentrée chez moi, que physiquement, ça a commencé à aller mieux, où je me suis bien rendu compte que j'étais hyper en colère de ce qui s'était passé, quoi. Que c'était pas c'est pas OK de juste dire que tout va bien à quelqu'un quand il a vécu ça. Donc j'étais un peu en colère contre les médecins qui m'ont pas assez prise au sérieux plusieurs fois, ou enfin En vrai, j'étais pas en colère contre eux personnellement, parce que je sais qu'à chaque fois, ils avaient sûrement des cas plus graves à gérer, mais le fait que je leur fasse confiance et qu'à chaque fois, on me ramène chez moi, sans le moindre diagnostic, sans savoir, je trouve que c'est un peu violent, quoi. Donc j'ai eu pas mal de colère après. J'ai beaucoup pleuré les semaines qui ont suivi, où je me rendais compte que c'était un vrai traumatisme, en fait, pour moi, ce qui s'était passé. Et en plus de ça, j'arrivais pas vraiment à récupérer. J'étais hyper fatiguée parce que j'avais perdu du coup énormément de sang. Et en fait, j'étais anémiée. Mais ça, c'est pareil. Personne m'a dit, potentiellement, vous avez perdu du sang, vous allez peut-être avoir des carences. Faites le point. Enfin voilà, c'est moi qui suis allée voir mon médecin. Je lui ai dit, j'arrive pas à récupérer. Je suis épuisée tout le temps. Je m'en sors pas. Elle m'a dit, on va faire une prise de sang. Et puis effectivement, ouais, j'étais carencée en fer. Mais ça aide pas non plus, quoi.
Tu disais au début, pour toi, c'était pas grave, mais c'était comme ça et que t'allais passer à autre chose. Et le fait de pas avoir pu passer à autre chose aussi rapidement que tu le désirais, avoir toutes les conséquences et le trauma de l'opération, est-ce que ça a changé du coup
Ça a rajouté beaucoup plus de tristesse que ça aurait été sans ça, je pense, ouais. Sur les semaines qui ont suivi. Bien que j'étais très consciente que c'était dans tous les cas une grossesse qui n'était pas viable et tout ça, mais oui, ça a rendu ça beaucoup plus difficile de se dire j'ai passé une semaine et demie qui était vraiment vraiment dure et ça aurait pu être évité en fait. Je dis pas que j'aurais rien eu du tout, que ça aurait été facile, mais ça aurait pu être traité de façon un peu plus douce, quoi. Pas dans l'urgence, pas dans le fait de se dire que voilà, parce que quand tu te rends compte que t'as fait une hémorragie interne, j'ai une fille qui avait un an, tu vois. Donc tu te dis, à quelques heures près, moi j'ai eu de la chance d'avoir mon mec qui était là, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait venir la garder à chaque fois, d'être à 3 minutes de l'hôpital, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe non plus. Donc à quelques heures près, ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Et ça aurait pu être dramatique, en fait. Donc je leur en ai voulu un peu pour ça aussi. Et du coup, ça a été quelque chose qui a été hyper difficile à digérer. Et ça m'a pris des mois, en fait, à comprendre que... Au début, j'acceptais pas que... Enfin, j'essayais de me dire que ça allait, que c'était pas grave. Mais c'est vrai que ça m'a pris du temps pour comprendre que c'était un vrai traumatisme et que ça m'avait marqué et que c'était pas rien et que c'était hyper important, quoi. Ça avait marqué quelque chose dans ma vie, dans ma maternité Et d'ailleurs, quand j'étais au plus mal à l'hôpital, j'ai dit sur le moment à mon mec que je voulais plus jamais avoir d'enfant, quoi. Parce que j'étais traumatisée de ce que j'étais en train de vivre et je voulais plus jamais prendre le risque de le revivre, en fait. Donc, ouais.
Et du coup, t'as été voir un psy, t'as pu échanger aussi avec d'autres femmes qui avaient vécu, même si c'est rare, des grossesses extrêmes.
J'en ai pas trouvé beaucoup sur le moment. Et puis, en fait, ça, c'était juste avant le premier confinement. Donc très vite, confinement, etc. Je me suis pas permise de trop y penser parce qu'il y avait d'autres trucs, à gérer dans les semaines qui sont arrivées. Mais au final, j'ai dans mes connaissances, dans les mois qui ont suivi, 2 personnes qui ont fait aussi des grossesses extra-utérines, alors qu'on était mieux prises en charge. Mais voilà, on se dit que c'est très rare, mais en fait, sans chercher, dans les gens que je connais, j'en ai rencontré 2 qui en ont fait à peu près dans les mêmes mois, quoi.
Ouais.
Et j'ai cherché beaucoup de témoignages de femmes sur Internet, de choses comme ça, mais en fait, j'en ai pas trouvé. Et c'est aussi pour ça que je suis contente d'en parler aujourd'hui, parce que je me dis que ça peut aider, ça peut avertir aussi. Parce que quand on ne sait pas du tout ce que ça peut faire, peut-être que moi, si j'avais su que ça pouvait avoir des conséquences dramatiques, j'aurais insisté plus à chaque fois que je suis allée aux urgences. J'aurais pas laissé complètement la confiance comme ça dicter tout ça. Donc, j'ai cherché beaucoup au début, et puis j'ai pas trouvé, je te dis, à part voir que c'était très rare et que c'était genre 3% des grossesses, il n'y avait pas trop d'infos dessus, quoi. Donc j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Pourtant, pareil, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts sur la maternité. Depuis que j'ai ma fille, je suis à fond, c'est un sujet qui me passionne. Et j'ai l'impression que c'est un sujet que j'ai jamais entendu dans aucun des podcasts que j'écoute. Et je me suis dit que ouais, c'était c'est pas si rare, et puis dans tous les cas 3% des grossesses, c'est déjà beaucoup quoi. Et ouais, c'est bien de le savoir et de comprendre tout ce que ça peut avoir comme impact, et puis de savoir que on a le droit de le vivre aussi difficilement quoi, parce que c'est une grossesse qui est pas viable, mais c'est quand même une grossesse. Et ça compte, c'est pas rien.
Et t'as vu un psy ou pas alors du coup ?
J'ai pas vu de psy parce que du coup, avec cette histoire de confinement et tout ça, je me suis pas mise là-dedans. Et puis après, j'ai un peu travaillé sur moi-même toute seule, mais sans voir de psy. À un moment, j'ai commencé à me poser des questions sur le fait d'avoir un deuxième enfant, et là j'ai eu besoin d'en discuter, et du coup je suis retournée voir une sage-femme pour discuter avec elle de tout ça, du fait aussi d'avoir plus qu'une seule trompe, de est-ce que ça allait être plus difficile d'avoir un autre enfant, parce qu'en fait j'avais aucune info sur l'après non plus, puisque normalement je devais avoir un rendez-vous de suivi, mais pendant le confinement, donc il a été annulé. Donc voilà, je suis plutôt allée voir une sage-femme au final, et le fait d'en discuter avec elle, ça a été dur sur le moment, mais ça a un peu refermé ce truc de ok, c'est bon, j'en ai parlé avec quelqu'un de vive voix, quelqu'un d'externe, voilà, j'en ai parlé, et du coup ça m'a fait du bien aussi, alors que je suis pas rentrée dans les détails, mais voilà, ça m'a fait du bien, elle m'a rassurée sur le fait que il n'y avait pas de raison que j'ai plus d'enfants si j'en voulais à nouveau, voilà. Et du coup, ça a permis de clore un peu ce chapitre, quoi.
Donc ça, c'était au bout de combien de temps après l'opération ?
C'était cet été, c'était 6 mois après.
D'accord. Entre-temps, niveau contraception, du coup
Niveau contraception, rien du tout, parce que j'ai plus trop confiance en... j'ai pas envie de reprendre la pilule, ça n'a pas fonctionné pour moi la première fois. Le stérilet, c'est hors de question, parce que pour moi, je l'associe à cette grossesse extra-utérine et je suis incapable de reprendre ce risque un jour. Voilà, et puis en fait, il n'y a pas 10 000 solutions. Donc, si c'est pour avoir des hormones dans mon corps et que ça fonctionne pas, je préfère contrôler ma contraception toute seule, en faisant attention à mon cycle, en se protégeant quand il faut. Mais voilà, ouais, non, les contraceptifs là, pour moi, c'est fini pour le moment, et peut-être qu'un jour je trouverai une solution adaptée, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé.
Et alors aujourd'hui, tu es enceinte de nouveau ?
Eh oui.
Ça fait 4 mois et demi, tu me disais ?
Ça fait 4 mois, ouais, 4 mois.
Comment t'as pris la décision justement de te relancer là-dedans ?
En fait, ça m'est revenu... au début, je voulais pas du tout envisager une autre grossesse. Ça m'a pris du temps, un petit peu. Enfin, du temps, pas tant que ça, mais les premiers mois, c'était hors de question. Et puis cet été, je sais pas, ça a commencé à me titiller un peu. J'ai commencé à avoir un peu... à l'envisager, à me dire que peut-être un jour, j'aurais quand même envie d'un deuxième, que voilà... Et puis à la fin de l'été, on rentrait de vacances et j'en ai parlé... avec mon amoureux, je lui ai dit « Bon, je crois que je me sens prête pour un deuxième. » Et lui, il avait très envie d'avoir 2 enfants depuis toujours, donc il était très content. Il attendait plutôt que moi je sois prête, parce que c'était plus de mon côté où c'était pas acquis. Voilà, donc on s'est dit « Bon, on va se lancer, mais tranquille, sans pression, et puis on verra bien ce que ça donne. » Et en fait, le mois d'après, j'étais enceinte. Voilà.
Alors, comment tu as vécu les débuts de ta grossesse ? Est-ce que tu avais une appréhension ?
Ouais, j'ai eu plutôt peur au début, tant que j'avais pas fait l'écho de datation. J'avais peur de faire une autre grossesse extra-utérine. Il n'y avait pas de raison, c'était pas rationnel, mais je pouvais pas m'empêcher d'y penser. Une ou deux fois, j'ai eu d'assez grosses douleurs ligamentaires et j'ai eu peur que ce soit des prémices de grossesse extra-utérine. Donc, les débuts, j'étais un peu stressée. J'essayais de pas trop y penser, mais j'étais assez stressée. Et une fois qu'on a fait l'écho de datation et que j'ai vu que tout allait bien, que c'était bien dans l'utérus et qu'il y avait un petit bébé qui grandissait tranquillement, ben ça m'a rassurée et ça m'a permis de lâcher ce stress et après je suis plutôt confiante en général et du coup ça va bien, mais c'était plus ouais avant la première écho c'était stressant.
Ouais. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des douleurs fantômes qu'on appelle qui ressurgissent justement pendant ta grossesse ou
Je sais pas, par exemple au début là, c'était des douleurs qui étaient assez fortes, vraiment dans le ventre et même dans le bas du dos, et je me suis dit est-ce que c'est accentué par le stress, est-ce que voilà, parce que depuis j'ai des douleurs qui sont tout à fait normales, des douleurs de grossesse voilà, sans plus, et donc je pense que mes douleurs elles ont été un peu accentuées par le stress au début. Voilà, mais maintenant ça va bien.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Ben, tout, je crois. je crois que le fait de devenir mère, moi, ça m'a rendue moins égoïste, plus patiente, plus bienveillante, je crois. Et puis, à partir du moment où j'ai pris conscience que être mère, c'était élever un futur adulte, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, donc l'éducation a pris une grande place dans ma vie et c'est très chouette. C'est très très chouette. Donc ouais, ça a tout changé, je crois, chez moi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman lilloise ?
Être une maman lilloise, c'est être une maman qui fait tout à pied, je crois. J'ai tendance à... Maintenant, on a déménagé, on est plus sur l'île, donc on est un peu plus à la campagne, mais quand on était encore sur l'île, je me déplaçais tout le temps avec ma fille en poussette ou en porte-bébé, et voilà, et je faisais complètement tout à pied. C'est une ville qui est assez à taille humaine pour ça, donc c'est très chouette. Donc ouais, c'est ça pour moi.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Lille ?
Il y a bien le restaurant de mon chéri, qui est un bar à jeux en même temps, et du coup les brunchs le week-end c'est vraiment top avec les enfants, et puis sinon il y a la citadelle aussi pour les balades qui est très chouette.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille?
Rien que pour moi, je crois que déjà prendre le temps de profiter de cette grossesse et de prendre du temps pour moi pendant cette grossesse, parce que je sais pas si ce sera la dernière ou pas, mais en tout cas voilà, j'ai envie d'en profiter. Et puis à côté de ça, moi j'ai mon entreprise, donc j'ai envie de continuer à la développer un maximum. Et puis en famille, on a prévu de partir une semaine chez des copains en Suisse là en février, donc ça devrait être chouette, ça devrait faire du bien.
Merci beaucoup Justine.
Merci à toi, Shane.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Justine, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 80 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.